Alors, je vous avais fait une petite introduction la fois précédente. Alors maintenant, il y aura trois chapitres dans ce cours. Un premier chapitre, c'est la Bible comme livre. Ensuite, l'histoire biblique, ce qu'il y a dedans, en fait, finalement, comment ça se déploie. Et puis, la troisième chapitre, c'est l'interprétation, c'est-à-dire comment on doit la lire. Voilà les trois, en quelque sorte, les trois éléments. Alors, commençons par la Bible comme livre. Donc, dans ce premier chapitre, on va voir la constitution de la Bible comme un ensemble littéraire, autrement dit, le texte, et puis sa transmission, en étant assez pratique. Alors, donc, première section, la constitution de la Bible. Alors d'abord, il faut savoir que la Bible, c'est le support de la foi d'Israël. Et donc, parler de la Bible à un chrétien et à un juif, ça provoque des réactions différentes. Donc, dans un premier temps, on va voir comment s'est constituée la Bible juive. Là, par exemple, vous avez une Bible hébraïque. Si vous cherchez les évangiles, vous ne les trouvez pas. Et puis, on peut comprendre que ça énerve les juifs. Que nous, on ait tiré le drap à nous, en fait. Parce que quand on parle de la Bible, on s'imagine que c'est chrétien. Mais enfin, du coup, ils ont l'impression de s'être fait déposséder de leurs biens. Un peu, d'ailleurs, que quand on parle avec des protestants, c'est un peu la même chose. On a l'impression qu'ils nous ont un peu dépossédés de nos biens et qu'ils ont tiré à eux la couverture. Oui. Alors, il faut d'abord étudier la constitution de la Bible juive. D'où premier paragraphe, la constitution de la Bible juive. Alors, et pour ça, il faut se reporter à l'écriture et à la notion de livre. Donc, grand A, le temps des livres. Et petit A, la diffusion de l'écriture. Parce que pour qu'il y ait un livre, il faut qu'il y ait une écriture. Non, mais c'est des choses toutes simples, mais il faut les dire. Donc, pour qu'il y ait un livre, il faut des gens qui sachent écrire et aussi des gens qui sachent lire. Voilà. Alors, vous savez, à notre époque, au 21e siècle commençant, ça devient une chose qu'il faut répéter, parce que c'est plus évident pour tout le monde. Oui, et des qui sachent écrire aussi. Bon. Et alors. Donc, c'est le cas pendant ce qu'on a appelé la période royale d'Israël, et en particulier à la fin de cette période, qui est la fin du 7e siècle. Donc, 7e siècle ante Christum, où l'écriture va se diffuser dans toutes les couches sociales, comme l'archéologie en témoigne. Les monuments, au sens les documents, qui nous sont parvenus de ces époques reculées, sont essentiellement des stèles, des tablettes, les tablettes souvent en argile d'ailleurs, des tessons de poterie, alors ça en quantité énorme, qu'on appelle ostraca, qui veut dire coquille en grec au pluriel. Donc, parce que on cassait pas les poteries exprès pour en faire des petits mots doux à envoyer, ou des factures ou des trucs comme ça. Mais comme il arrivait que les poteries se cassent, on récupérait, parce qu'on avait déjà à cette époque probablement le sens du développement durable. Donc on récupérait les morceaux de poterie et puis on s'en servait pour différents usages, dont notamment pour écrire. Voilà, ça. Oui, bah oui.
Ah oui.
Ça vient d'Ostraca. Donc, qui sont des matériaux, donc la pierre, l'argile l'argile cuite, qui sont des matériaux plus résistants que, par exemple, les papyrus et les parchemins, donc qui sont des matériaux plus coûteux à fabriquer, plus coûteux, oui, sûrement, en tout cas, qui s'abîment plus vite. Alors, les stèles sont réservées aux documents les plus importants, les traités, par exemple. Comme ça qu'on a des renseignements sur l'histoire plusieurs millénaires, parce que c'était gravé dans la pierre. Hein. Aujourd'hui, on dit gravé dans le marbre. Vous savez, tous les journalistes qui commentent je sais pas quoi, ce qui se passe au Parlement, ils disent c'est gravé dans le marbre. Mais en fait, à l'époque, les lois étaient gravées dans le marbre et les traités avec, parce que, enfin, le marbre ou le granit ou la pierre, parce que c'était le moyen de les conserver, enfin, le meilleur moyen de les conserver. Donc, alors que les tablettes et les tessons, ça sert plutôt pour, comme support des écrits les plus courants, comme par exemple ceux qui relèvent de l'administration, du commerce ou du courrier privé. Voilà ici par exemple un exemple. C'est le cas d'un esclave royal se plaignant au gouverneur local par le truchement d'un écrivain public, de ce qu'un surveillant lui a confisqué son manteau et ne lui a pas rendu la nuit venue, ce qui est contraire à la loi. Vous comprenez, puisqu'on n'est pas chauffé, on écoute que... Alors, parce que la loi, dans Exode 22-25, elle dit « Si tu prends en gage le manteau de quelqu'un, tu le lui rendras au coucher du soleil ». Tous ceux qui sont allés en Terre Sainte savent qu'il y a des écarts de température assez considérables, hein, et il peut faire très froid la nuit. Et alors, voilà ce que dit... Alors, on a retrouvé ça sur un tesson. Que Monseigneur le gouverneur entende le cas de son esclave. Ton esclave est un moissonneur. Ton esclave était à Hazor-Hazam, et ton esclave était à la moisson, et il avait fini, et il rentrait avant le sabbat. Alors que ton esclave en avait fini avec la moisson et la rapportait, survint Oshaya, fils de Shobai, et il prit le manteau de ton esclave alors que j'avais fini ma moisson. Cela fait déjà plusieurs jours qu'il a pris le manteau de ton esclave. Et tous mes frères parleront pour moi, eux qui ont moissonné avec moi dans la sueur. Mes frères parleront pour moi. En vérité, je suis exempt de toute faute. Faites donc qu'on me rende mon vêtement. Et si ce n'est pas la tâche du gouverneur de faire rendre le manteau, montre-lui ta bonté, etc. En lui en donnant un autre. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, donc, c'était une affaire entre deux plaignants. Et puis, et donc, qui nous a été conservée. Ça remonte certainement à 3 millénaires au minimum.
3 millénaires.
Enfin, peut-être pas 3, 2 et demi. Allez. Alors, donc si l'écriture s'est particulièrement répandue pendant la monarchie, ça ne signifiait pas qu'elle était inconnue auparavant. L'alphabet sémitique, alors justement, vous pouvez en voir un bel exemple sur cette Bible hébraïque. Voilà, je vous la fais passer.
Mmh. Oui.
Alors, souvenez-vous que ça se lit à l'envers, hein.
Oui, exactement, oui, c'est ça, Mais oui, on voit bien, ça commence comme ça, oui.
Non, et de droite à gauche, et puis... Voilà, et la dernière page à la première. Donc, l'alphabet sémitique auquel se rattache l'hébreu remonterait au début du deuxième millénaire. Vous voyez, deuxième millénaire, moins 2000 à peu près. Et on a retrouvé des tessons qui datent, par exemple, du XVIIe siècle antechristum, vraiment très ancien. Donc, les traditions orales ont pu être mises par écrit très tôt, au moins pour les récits les plus significatifs, les plus importants, un peu fondateurs. Alors, les historiens des civilisations notent qu'à la phase plus ou moins longue d'élaboration des traditions qui sont fondatrices, succèdent des périodes parfois très courtes de cristallisation qui peuvent être liées à des bouleversements sociaux comme une migration, un changement de régime, une catastrophe naturelle ou encore une personnalité exceptionnelle. Et à ce moment-là, dans ces phases, parfois on a le sentiment que la transmission peut être, la transmission qui est habituellement orale hein, dans les civilisations primitives, risque d'être perdue, faute de locuteur, faute de transmetteur, ou parce qu'on a conscience qu'il y a une page d'histoire qui se tourne, et bien à ce moment-là, on va mettre par écrit, on va précipiter par écrit, on va cristalliser ces traditions dans un écrit. Si bien que parfois on se dit, tiens, on verra ça avec l'exégèse historico-critique, qui dira on n'a pas de on n'a pas de traces archéologiques par exemple antérieures à tel siècle pour tel écrit, donc ça veut dire qu'il a été écrit à telle époque. Oui, ça veut dire d'abord qu'on n'a peut-être pas retrouvé les documents plus anciens. On peut pas dire parce qu'on les a pas, ils n'existent pas. peut-être qu'ils existent, mais on ne les a pas retrouvés. Et deuxièmement, ce qui a été mis par écrit, elle peut être transmis oralement très longtemps avant que, dans une phase un peu de, disons, de mutation, on éprouve le besoin de la fixer pour la transmettre. Vous voyez ? Donc, les traditions orales ont pu être mises par écrit très tôt ou bien très tard. On n'a pas de, il n'y a pas de règle générale. Et donc, il est pas déraisonnable de pouvoir situer la rédaction de la Genèse à l'époque des patriarches et l'Exode à l'époque de Moïse, même si plus tard on va voir qu'il y a une réélaboration, une réécriture à l'époque exilique, post-exilique, comme on dit. Alors, ça c'était petit a, la diffusion de l'écriture. Bon. Vous savez, il y a des pays, des civilisations qui ne connaîtront pas l'écriture hein, et qui se garderont de la développer pour que le langage reste toujours mystérieux, comme par exemple la civilisation celtique. Et la civilisation germanique ne gardera que des runes qui sont réservées à un usage religieux. Et donc voilà, des civilisations qui se passeront de l'écriture. Alors, petit b, la constitution des livres. Alors, la première mention d'un écrit biblique est bien évidemment celle des stèles de la loi de Moïse qui sont déposées dans l'Arche d'Alliance, qui est elle-même conservée dans le temple construit sur l'ordre du roi Salomon. C'est dans 1 roi 6, 19. Mais évidemment, la loi, elle ne se limite pas au décalogue, hein. Elle comporte de nombreuses autres dispositions qui, en raison de leur importance pour la vie du peuple, ont été consignées sur des matériaux plus maniables. C'est ainsi qu'il est fait état du livre de la loi de Yahvé transmise par Moïse, retrouvé au temple lors du règne réformateur du roi Josias. C'est dans 2 Chroniques 34, 14-18. Il s'agit probablement de ce qu'on appelle le code deutéronomique, c'est-à-dire les chapitres 12 à 26 du Deutéronome. Vous voyez, c'est un ensemble assez important. Et évidemment, tout ça n'était pas gravé dans voilà.
Il était sur quoi, le code
de... Probablement sur des tablettes de pierre ou des tablettes d'argile, plutôt de pierre, je pense, mais pas aussi solennelle que la loi. Et l'auteur des chroniques situe cette découverte dans la 18e année du roi Josias, c'est-à-dire en 622 Antechristum. Vous voyez, 622, quand on lit quand on regarde l'histoire biblique, on se dit c'est déjà, disons, c'est le milieu, quoi. Il y a eu déjà les patriarches, la déportation en Égypte, la monarchie en 622. Déjà, le royaume du Nord est tombé. En 622, Rome est encore une bourgade. Hein. Nous, on n'existe pas. Les Celtes ne sont même pas encore en Europe. Les Grecs sont, oui, enfin, ça balbutie à peine. Il n'y a ni Platon, ni Empédocle, ni les présocratiques ne sont pas encore arrivés. Donc, vous voyez, là, on a toujours un décalage assez énorme dans l'Antiquité, parce que nous, notre Antiquité occidentale, on la pense grecque ou latine. Tandis que si on franchit quelques centaines de kilomètres de Méditerranée, on se retrouve avec des millénaires en plus. Donc, 622, vous voyez, c'est la fin du royaume du Nord, et le royaume du Sud subsiste encore. Alors donc, en tout cas, l'existence de livres contenant les dispositions de la loi est donc attestée à la fin du 7e siècle. Antechristum, toujours. Et les circonstances montrent qu'il s'agit d'ouvrages bien plus anciens, puisqu'ils avaient été ignorés pendant les règnes précédents, au point même d'avoir été perdus, on ne se souvenait même pas qu'ils existaient. Et donc la floraison des livres bibliques semble s'être produite sur une large échelle lors de cette phase de cristallisation qu'a représenté l'exil à Babylone. Voyez. Donc c'est tout au long du VIe siècle, hein, de 586 à 538. Période de crise, s'il en est, hein, puisque toute l'élite avait été déportée en Moyen-Orient. Et il semble que c'est à ce moment-là que le Pentateuch, donc les cinq premiers livres de la Bible, hein, c'est ce que ça veut dire en grec, prend sa forme définitive. On va raconter l'histoire, les quatre livres initiaux, plus le cinquième, le Deutéronome, qui est la deuxième loi. Hein, ça veut dire, Deutéronome, c'est en fait le livre qui va résumer les quatre précédents un peu, ou les reprendre. C'est une relecture en soi. Et puis on va raconter l'histoire de la monarchie dans une perspective théologique, en se servant de documents d'archives. Là, ce sont les livres, les quatre livres des rois, comme on disait autrefois, qui sont en fait les deux livres des rois, les deux livres des chroniques. Et alors qu'ils vont être, évidemment, la forme qu'on a aujourd'hui, c'est pas la forme probablement des archives royales de l'époque, mais c'est une lecture théologique des événements et des chroniques des règnes. Voilà. Puis on va publier les oracles des prophètes, eux qui avaient rappelé les droits de Dieu à l'encontre des prérogatives des souverains, très souvent, et qui font entrevoir une restauration possible de la monarchie et donc de l'État. Si bien qu'il en résulte une littérature abondante, qui n'est pas toujours de bonne aloi d'ailleurs, donc qui se posera toute la question de savoir qu'est-ce qu'on retient comme parole de Dieu et qu'est-ce qu'on ne retient pas comme parole de Dieu. Parce que donc on produit beaucoup, mais vous savez, au moment où on produit, les gens, ils ne savent pas que c'est la Bible. Hein, quand vous avez un oracle comme ça, vous savez, la preuve c'est qu'il y a un certain nombre de prophètes qui vont passer un sale quart d'heure à un moment ou à un autre, donc ce qu'ils disent n'est pas parole biblique, hein, c'est j'ose dire. Ou alors ça l'est trop, et c'est la raison pour laquelle ils sont mis hors de... Oui, exécutés. Par exemple, le prophète Jérémie, qui est contemporain de l'exil, hein, parce qu'on ne sait plus ce qu'il est devenu, d'ailleurs, au moment où un certain nombre de haut gradé de Jérusalem fuyait vers l'Égypte, on perd la trace de Jérémie. Alors, Jérémie disait, « Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages et la loi de Yahvé est avec nous ? Vraiment, c'est en mensonge que l'a changé le calame mensonger des scribes. » Jérémie 7, 8. Donc c'est en mensonge que l'a changé le calame mensonger des scribes. Donc les scribes, vous voyez, le calame, hein, c'est le roseau taillé là qui permet de... Quant à l'Ecclésiaste, le Coëlette, hein, il dit, il n'hésite pas à prendre ses distances. En plus de cela, mon fils, sois averti que faire des livres est un travail sans fin et que beaucoup d'études fatiguent le corps. Voilà. Par partisan de la multiplication. Voilà. Alors ça, c'était grand A, le temps des livres. Alors maintenant, grand B, le temps de la religion du livre. Alors, pour qu'il y ait des livres, il faut des bibliothèques. Alors, petit A, l'apparition des bibliothèques. Alors, c'est au IIe siècle, ante Christum, hein, toujours, qu'on va commencer à ériger des bibliothèques, tellement il y a de livres. Et étymologiquement, une bibliothèque, c'est une caisse à livres. Hein, c'est ça que ça veut dire. Une caisse où on met les livres pour les conserver. C'est la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, constituée à l'initiative du roi Ptolémée Ier. Vous voyez que les premières bibliothèques vont avoir lieu à l'époque où Israël est sous occupation étrangère, hein, à la période hellénistique. Et les fouilles archéologiques mettront au jour des fonds concernant l'histoire biblique et même proto-chrétienne, dans différents endroits, à Éléphantine, qui est une grosse colonie juive d'Égypte, à Qumran, dans la vallée de la mer Morte, et à Nag Hammadi, qui est aussi en Égypte, où on a découvert une gigantesque bibliothèque, enfin gigantesque, une grande bibliothèque gnostique, de textes, comme on dira, intertestamentaires ou gnostiques. Alors à Qumran, on aura des écrits esséniens, et des écrits même franchement canoniques, même proto-chrétiens, et puis à Éléphantine, plutôt des écrits de la période hellénistique de la diaspora juive. Alors, le monde juif n'est pas en reste, comme l'atteste d'ailleurs la Bible, dans une relation du deuxième livre des Maccabées, donc c'est la même époque, hein, c'est moins 165, vous voyez, lors de la reprise de Jérusalem. Alors, je cite, c'est 2 Maccabées 2, 13, 16, qui dit « Outre ces mêmes faits, il était encore raconté dans ses écrits, des écrits datant du retour d'exil, donc du VIe siècle, et dans les mémoires de Néhémie, comment ce dernier, fondant une bibliothèque, y réunit les livres qui concernaient les rois, les écrits des prophètes et de David, et les lettres des rois au sujet des offrandes. Judas, pareillement, a rassemblé tous les livres dispersés à cause de la guerre qu'on nous a faite. Et ils sont entre nos mains. Si donc vous en avez besoin, envoyez-nous des gens qui vous en rapporteront. » Donc vous voyez, dans la Bible même, on nous parle de livres qui existent et même du gouverneur Néhémie qui va fonder une bibliothèque pour rassembler toutes les archives et donc toute cette masse de livres qui s'est, comment dire, multipliée après le retour d'exil. Alors, ces livres sont classés en trois catégories. Il y a la loi, les prophètes et les autres écrits. C'est comme ça que la Bible juive est structurée. Donc, la loi, oui, c'est ça. Ben, c'est marqué là, hein. Oui. La loi, les prophètes et les autres écrits. Donc, Ketubim, c'est les autres écrits. Alors, c'est ce qui paraît attesté à l'époque du petit-fils de Ben Sirac le Sage. Un de mes confrères facétieux me disait Ben Sirac le Sac. Donc, c'est Ben Sirac le Sage. Et donc, il fait en moins 130. Puisqu'il emploie à trois reprises cette dénomination dans le prologue de la traduction de l'œuvre de son aïeul, en moins 190, donc c'est Siracide, là, parce que nous, dans nos bibles chrétiennes, on a les écrits grecs. Alors, Siracide, c'est l'ecclésiastique. Voilà ce que dit